Toca a ti.
Bonsoir. La fin de la visite du secrétaire général des Nations Unies en RDC, la prolongation de la période d'enregistrement de candidatures et le dépôt de candidature de Joseph Kabila à la présidentielle, trois thèmes qui feront l'objet d'analyse de la tribune de la presse ce vendredi 24 mars 2006, seront autour de la table pour en discuter trois confrères, John Ngomboa d'Antenna, une chaîne de télévision privée de Kinshasa, Benoît Kambéré, journaliste au sein de la revue catholique Renaître à Kinshasa également, et Pascal Moulunda, éditeur du journal Le Moniteur. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, suivons d'abord les déclarations de Kofi Annan lors de la conférence de presse qu'il a animée mercredi dernier au Grand Hôtel Kinshasa. Il s'est prononcé notamment sur la tenue des élections inclusives en République démocratique du Congo. Suivons-le au micro de notre confrère Léonard Moulamba.
Ils sont en train de discuter entre eux. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et soulever la même question avec eux. Je les ai encouragés de s'organiser d'une manière qui peut permettre une élection inclusive. Il y a des gens qui estiment que le 30 juin est trop tôt, qui estiment que peut-être les partis n'ont pas eu l'occasion de soumettre les noms de leurs candidats, mais c'est une chose qu'ils doivent discuter entre eux et se mettre d'accord sur un calendrier. Si ce n'est pas celle du 30 juin, quelle date? Mais ils doivent discuter avec M. Malu, avec lui, il était ouvert. Si la plupart parmi eux estiment qu'il faut changer les dates, ou bien arriver, etc., décider, ce n'est pas pour la communauté internationale d'imposer ça, on dit changer ça.
Voilà, Kofi Annan insiste, comme Jean-Marie Guénaud l'avait fait au sujet de l'inclusivité du processus électoral. D'après vous, a-t-il réussi à convaincre ceux notamment qui se montrent jusqu'à là réticents? Benoît Kambéré, d'abord vous.
Je n'ai pas l'impression, parce que d'après les dernières informations, le RCD jusque-là n'a pas encore dit quoi que ce soit, bien que j'apprenne qu'il y a des membres de ce parti qui, de façon indépendante et individuelle, déposent leur candidature, mais officiellement la politique du parti, il n'y a pas encore une déclaration officielle de ce parti à ce sujet. Et du côté de l'UDPS, pareil, j'apprends que là également, il y a des individualités. Je peux citer comme ça une des dames tête forte de l'UDPS, Madame Eve Bazaïba, qui aurait déposé sa candidature hier. Mais l'inclusivité, moi je ne la vois pas encore.
Pascal Moulunda, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Moniteur de Goma, au Nord Kivu. Est-ce que vous partagez le même avis que Benoît Kambéré, selon lequel Kofi Annan n'a pas réussi à convaincre ceux qui se montrent jusque-là réticents au processus électoral en cours?
Je dirais que c'est hier qu'on a annoncé la prolongation des dépôts de candidature. Kofi Annan a insisté sur l'inclusivité. Je crois que c'est encore tôt de dire qu'il a réussi ou n'a pas réussi. Mais ce qu'il faut retenir est que Kofi Annan a invité l'UDPS et le RCD à se dépasser et à prendre part au processus électoral. Je vois que c'est tôt, mais je jette les fleurs à Malumalu, parce que Malumalu, il a été le premier, à l'abbé Apollinaire Malumalu de la CEI, il a été le premier à comprendre les messages de Kofi Annan. Il dit en tout cas, au nom de l'inclusivité, pour permettre à tout le monde de participer aux élections, admettons la prolongation.
John Gomboa, je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision privée Antenna, ici à Kinshasa. Quel bilan vous faites, vous, de la visite de Kofi Annan ici à Kinshasa, disons en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est rendu aussi à Kisangani?
Bon, je pense que Kofi Annan a fait ce qu'il fallait, ce qu'il devait faire.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, étant une personnalité de haute facture au point, du point de vue international, secrétaire général des Nations Unies, il a essayé de concilier les vues et j'ai beaucoup apprécié l'élégance. C'est-à-dire Kofi Annan dit que, bon, la communauté internationale ne peut rien imposer, j'espère que c'est aussi vrai, ne peut rien imposer au Congo et qu'il revient aux Congolais de pouvoir décider. Bon. Il m'a semblé qu'il avait en tout cas reçu en audience les principaux acteurs, qu'ils ont discuté, mais par la suite, il n'y a pas eu forcément convergence de vues. Je pense que le reste de la partie doit être joué par le Congolais. C'est pourquoi je disais que Kofi Annan a fait ce qu'il pouvait faire. Il revient maintenant aux Congolais de pouvoir s'engager sur les pistes tracées par Kofi Annan, qui, dans le propos au moins que nous venons de suivre sur Radio Capi tout à l'heure, il y a des concepts que je retiens là en passant, par exemple, inclusivité, s'organiser, discuter, calendrier, communauté internationale. Ça, c'est des concepts de base dans les propos des Kofi Annan. Je crois que si on les met ensemble, on a plus ou moins la philosophie de ce pourquoi il était venu ici. Et je pense qu'il a fait ce qu'il devrait faire.
Benoît Cambéra, est-ce que vous avez eu l'impression, pendant la visite de Kofi Annan, qu'il a assez écouté le monde politique congolais, qui, lors de l'entretien qu'ils ont eu, notamment avec Kofi Annan, ont semblé faire croire que Kofi Annan n'était pas très bien informé sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il les a suffisamment écoutés d'après vous?
Écoutez, oui, mais compris peut-être pas. Écoutez, je peux l'affirmer, et ce n'est pas seulement les hommes politiques congolais. J'ai fait les déplacements hier à Kisangani avec justement M. Kofi Annan. Durant les 8 heures de visite de M. Kofi Annan à Kisangani, ce n'était que des écoutes. D'ailleurs, tous ses speeches à Kisangani, tant avec Mgr Mosengo, tant avec les membres, les ex-combattants au CONADER, les femmes, les gens de la société civile, il parlait très peu et écoutait plus. Notamment à la procure avec les femmes de la société civile de Kisangani, il parlait très très peu et donnait la parole plus aux gens pour s'informer, mais seulement les réponses qu'il donnait, ben, il a son point de vue sur la situation, son point de vue peut-être pas, il a même son idée sur la situation au pays. Et là, il y tient modicus, et comme l'a dit John tout à l'heure, bon, la balle est plus du côté des Congolais, mais connaissant les politiciens congolais, égoïstes, têtus, tels qu'ils sont, et quand la communauté internationale, et c'est ça que beaucoup d'acteurs politiques ont essayé de lui faire comprendre, ils devraient pousser cela, parce qu'on a vu durant tout le processus, il fallait que les gens viennent de l'extérieur pour qu'on ait la constitution, pour qu'on ait le projet de constitution, pour qu'on ait la loi électorale. Il faut pousser. Les deux ans de retard que la CI a accumulé, c'est du chef des politiciens congolais, surtout ceux qui sont au pouvoir actuellement, ils ont le beau rôle. Maintenant qu'ils se sont déclarés candidats, je crois qu'on va y arriver. En principe, ils devaient même se désengager de la vie de l'État. Je me demande comment quelqu'un qui est en même temps candidat maintenant peut continuer à ménager et son poste maintenant et sa qualité de candidat. Je crois que c'est un débat qu'on pourrait...
Pascal Moulunda, entendre le secrétaire général des Nations Unies où il parle de responsabilité des Congolais eux-mêmes, que la communauté internationale ne peut pas leur imposer des choses, mais entendre les politiciens congolais ici lors de leurs entretiens avec Kofi Annan, mais est-ce qu'il ne vous semble pas qu'ils attendent un peu trop si pas de Kofi Annan, sinon de la communauté internationale.
Moi, je pense plutôt que, enfin, je pense que Kofi Annan est venu les responsabiliser. En tout cas, vous êtes responsable de l'avenir radieux de votre pays. Vous devez prendre, permettez-moi, à ce pléonasme, cette responsabilité en main. C'est vrai, Kofi Annan, d'ailleurs, il a eu à les souligner quand nous étions au Grand Hôtel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en politique, il y a toujours des problèmes, et que même après les élections, il y aura toujours des problèmes, mais il faut que l'essentiel soit accompli. L'inclusivité. On reporte les dépôts des candidatures pour inclure d'autres partis aux élections, mais il ne faut pas que ces derniers puissent aussi s'auto-exclure. Donc, on nous a appelé, en fait, on a appelé les hommes politiques congolais à la responsabilité.
Oui, Benoît.
Je voulais réagir un peu à ce que vient de dire Pascal. Est-ce qu'on a reporté le dépôt de candidature pour que les autres s'inscrivent dans cette logique? Je ne pense pas. Les raisons qui ont été données par la CEI, c'est qu'il n'y avait pas assez de candidats dans certaines circonscriptions. Ce n'est pas nécessairement.
C'est entre autres raisons.
Enfin, je n'ai pas eu cette impression-là, parce que j'ai encore suivi tout à l'heure un membre de la commission électorale sur les antennes de Radio Capri, avec une arrogance d'ailleurs qui m'a déconcerté, dire qu'il n'en était rien dans ce sens-là. Hein, et que eux, ils s'en tenaient à ce qu'ils ont dit avant et que ce n'était pas pour ceci ou pour cela, tout simplement parce que il y avait des endroits où il devait y avoir 8 candidats, il n'y avait que 3 et ça n'était pas une élection, ça devenait autre chose.
Voilà, John Gomba, deux autres personnalités des Nations Unies qui viennent en un temps assez court ici en République démocratique du Congo, c'est-à-dire il y a eu d'abord le numéro 2 des Nations Unies, Jean-Marie Guénot, et puis Kofi Annan, le secrétaire général. Quelle signification peut-on donner à ces différentes visites? Est-ce parce que le Congo se trouve à un tournant décisif de son histoire, c'est-à-dire la tenue des premières élections après 45 ans?
Aussi. J'allais souligner qu'il n'y a pas que les deux là, il y a Javier Solana, il y a autant. C'est dire que ces visites là, ce ne sont pas des visites gratuites, hein. Vous savez ce que cela a comme valeur symbolique dans le rapport des États, dans les relations internationales. C'est tout un message et nous ne parvenons même pas à décoder malheureusement toute la signification de ces différentes visites. Le Congo, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel État. J'ai suivi une fois sur la RTNC, la radio publique, un reportage sur les audiences que le président de la Russie accordait aux ambassadeurs, aux nouveaux ambassadeurs qui venaient de présenter leurs lettres de créance. Et pour l'ambassadeur du Congo, eh bien, dans sa Russie lointaine, là, froide, glaciale, le président de la Russie est resté 5 minutes à discuter avec les Congolais. C'est dire que ce pays est important dans la configuration stratégique des relations du monde à venir et actuel. Mais curieusement, il n'y a peut-être que les Congolais qui ne comprennent pas cela. Donc je pense que c'est significatif aussi bien pour le solutionnement. Parce que le solutionnement de cette crise-ci permettra de savoir si demain on devrait considérer le Congo comme étant un partenaire dans les relations internationales ou un enfant, c'est-à-dire un adulte ou un enfant dans les relations internationales.
Est-ce que ces deux visites se complètent, celle de Jean-Marie de Kofi Annan et celle de Jean-Marie Guénot, l'adjoint de Kofi Annan?
Oui, elle se complète. Hein. Disons que Kofi Annan est plus politique que Guénot, qui était un technicien. Je crois que juste après Guénot, on en discutait un peu la dernière fois, on a eu maintenant la confirmation que ça sera la force de l'Union européenne qui va soutenir la force onusienne, la RDC, pour la sécurisation des élections. C'était davantage maintenant, je comprends, c'est davantage de ce point de vue, mais Kofi Annan, c'est pour par rapport à l'ensemble, hein, à la politique globale maintenant qui sous-tend la transition et qui peut déboucher sur l'organisation des élections éventuellement.
La CEI a annoncé hier, jeudi 23 mars 2006, la prolongation de la période d'enregistrement de candidatures pour la présidentielle et les législatives. Suivant à cet effet, Dieudonné Mirimont, rapporteur de la CEI, au micro de René Capitan, notre confrère.
Aujourd'hui, jeudi 23 mars 2006, à l'heure de clôture de l'opération de dépôt de candidature, la commission électorale indépendante constate avec regret que les dossiers de candidature déposés pour les législatives ne couvrent pas le nombre de sièges tels que répartis par circonscription électorale par la loi. Et pour permettre aux candidats de s'acquitter rapidement de leurs devoirs, le bureau de la commission électorale indépendante a décidé un délai supplémentaire de 10 jours allant du 24 mars 2006 au 2 avril 2006 à 16h30.
Voilà, un délai supplémentaire a été accordé aux politiques congolais pour déposer, et à toute personne qui voulait déposer sa candidature à la présidentielle et aux législatives. Cette prolongation ne crée-t-elle pas plus de problèmes qu'elle n'en résout? Donc je vais parler du calendrier qui ne sera plus respecté, le calendrier au 18 juin par exemple, qui ne sera plus respecté, le John Gomba.
Moi, je pense que cette prolongation a été nécessaire. On a compris qu'elle s'est imposée à la CI. Je sens un tout petit peu la CI dans les communiqués a dû prolonger les dépôts un peu à contre-cœur. Parce qu'on savait, la CI voulait être respect des droits et tout ça, règles et tout ça. Sans oublier que quand même, ce sont les hommes qui établissent les règles et que si les hommes ne sont plus d'accord sur les règles, bien, faut voir un tout petit peu. Et donc, cette prolongation était nécessaire pour détendre l'ambiance, parce que à supposer que hier ait été la clôture du dépôt des candidatures, eh bien aujourd'hui on aurait déjà une crise qui allait exploser. Mais fort heureusement, Dieu merci, par un concours de circonstances, c'est involontairement, hein, il a fait involontairement, par un concours de circonstances, il s'est avéré que bon, on va prolonger. Maintenant, quant à savoir si c'est un bien ou un mal, par rapport au calendrier, eh bien,
qui ira au-delà du 30 juin.
Je pense que jusqu'à ce jour, il n'y a que la commission électorale indépendante qui semble croire que les élections vont s'organiser dans le délai. Tous les délais, à mon avis, vont exploser complètement. Et que même le 28 juin, qui est prévu là, comme prochaine date pour l'organisation des élections, ne risque même pas d'être atteint. Plutôt, ne risque même pas d'être respecté, les élections. Comme il y aura d'autres étapes, la campagne électorale et ceci et cela, les élections risquent même d'être organisées par la CI bien après le 30 juin. Et malgré elle, ça c'est indépendamment du fait que les politiciens ont dit ou les politiciens ont fait. Donc, à quelque chose, malheur est bon peut-être, mais maintenant, je me dis qu'il faut profiter de ces 10 jours de prolongation pour régler les problèmes politiques liés autour de l'organisation des élections. La CI devrait se départir de cette sorte de suffisance, pour comprendre que, au fond, on lui demande pas d'organiser les élections. Organiser les élections, ce n'est pas une vue d'esprit. Il s'agit de ce qui compte le plus, c'est que quand elle aura organisé ces élections, ces élections servent de point de départ pour une société plus apaisée, plutôt que après l'organisation des élections, on revienne à la case de départ.
Parce que donc, vous voulez dire par là qu'il ne faudrait pas organiser les élections pour les élections.
Tout à fait, mais ça servirait à quoi au fait? Si déjà après les élections, on a par exemple une contestation, on a par exemple un soulèvement, on a par exemple différentes manifestations. Mais ça aurait servi à quoi d'organiser des élections? Ça aurait servi à quoi de gagner du temps pour le perdre? Ça aurait servi à quoi de faire tout ça, de perdre autant d'argent, 150 millions pour l'Union européenne, par exemple, 150 millions d'euros, qui n'aurait servi à rien que de lancer les pays sur une contestation, soit sur la reprise de la violence et tout ça. Donc la CI, à mon avis, doit être un tout petit peu tempéré dans ses prises de position, à mon avis, qui ont de plus en plus tendance à exacerber une certaine opinion, à exacerber les politiciens, plutôt qu'à les fédérer. C'est curieux de la part quand même d'une commission qui devrait être tout à fait technique, mais on dirait qu'il y a trop de confusion là-dedans.
Benoît Camdéré, est-ce que vous êtes du même avis qu'on devrait profiter, la classe politique devrait profiter de ces 10 jours de prolongation pour régler certains problèmes politiques, et lesquels?
Tout à fait. Et ça...
Quel
ça,
problème politique?
Ça transpire, je vais y arriver. Ça a transpiré dans ce que a dit M. Kofi Annan quand il est arrivé ici. En fait, la grande responsabilité, ce sont les Congolais, et ils devraient saisir cette chance. Mais malheureusement, combien ont compris, surtout ceux qui sont au pouvoir, combien ont compris que c'est le moment? Il y a des problèmes, ce problème d'inclusivité, tout le monde en parle. Ce serait l'occasion de résoudre ce problème. Mais on a eu pas mal de rencontres ici. Il y en a pour qui la situation actuelle profite, mais profite seulement maintenant. L'après, ils ne voient pas ça. Nous allons vers un mur, malheureusement. Et cette prolongation...
Dans quel sens nous allons vers un mur?
Moi, je la voyais venir. La crise actuelle vient de quoi? C'est une crise de légitimité. Les gens n'ont pas de légitimité. À quoi serviraient des élections pour les élections? Des élections pour les organiser? On parle d'élections libres, transparentes et consortes. Mais s'il y en a qui sont au bord de la route, mais ceux qui se disent populaires, ceux qui croient qu'ils vont les gagner, mais ce serait bien qu'ils le gagnent avec les autres.
Mais est-ce que quand vous parlez d'inclusivité, vous voulez parler simplement de l'UDPS ou bien de toutes ces personnes qui se sentiront frustrées, tous ces candidats qui se sentiront frustrés par le fait qu'ils ne seront peut-être pas payés les 50 000 $ pour la présidentielle?
C'est toutes ces personnes-là, justement. Vous pensez que un monsieur comme Gizenga est fou de déposer sa candidature à la CEI sans caution? Mais quand même, on peut se poser des questions. Et il n'est pas le seul. Il y en a qui ont déposé leur candidature sans caution. C'est-à-dire que cette candidature sera rejetée. Mais on devrait revisiter cette loi. Parce que la caution, c'est l'exclusion. On a parlé de diplôme qui était l'exclusion. On a parlé d'expérience qui était exclusion. On a parlé de l'âge qui était exclusion. Mais on a balayé, certes pour faire plaisir à certains, le critère d'instruction, le critère de moralité, le critère de maturité, d'âge, mais pour retenir un autre critère exclusif, c'est celui de la caution. Et d'ailleurs, une caution, parlons français, une caution est toujours remboursable. Vous devez d'ailleurs trouver un autre mot, hein, soit dit en passant.
Pascal Mulunda, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Moniteur de Goma au Nord Kivu, et vous êtes avec nous dans ce studio de la radio Okapi à Kinshasa. Jusque hier soir, la CEI avait enregistré 356 candidatures pour les législatives sur les 500 places à pourvoir, les 500 sièges à pourvoir, et 30 candidatures pour la présidentielle. Or, il faut au minimum 500 candidats pour briguer les 500 sièges de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, ce taux moins élevé des candidatures pour les législatives, notamment?
Cher confrère Claude, je dirais, d'ailleurs je peux même épouser l'idée de Noa Kambere. Donc cette caution, elle-même c'est une exclusion. Vous savez, moi j'ai parlé avec un législateur, parce qu'en fait il faisait partie de la commission administrative et juridique du Parlement. C'est une révélation. Donc ils avaient proposé. D'ailleurs, c'était loin. Ça, c'est encore petit. Ils étaient loin par rapport à la caution. Mais là, ils se disaient non, il faut exclure ceux qui n'ont pas, ceux qui ne font pas partie des acteurs, ceux qui ne font pas partie des institutions. Donc c'était d'abord.
Vous pensez par là que cette loi électorale a été taillée sur mesure?
Oui, parce que il y a une loi. En tout cas, loi dans notre pays, on dit, tout Congolais a le droit de briguer n'importe quel mandat sans aucune discrimination, en tout cas, j'insiste, sociale.
C'est dans la Constitution.
C'est dans la Constitution même. Donc, moi, je me dis, d'abord, cette caution, c'est pour exclure, les éventuels candidats. Mais aussi, chers confrères, revenons un peu à cette prolongation. Moi, je me pose une question. Est-ce que la CEI a-t-elle prolongé parce qu'il y a, il y a moins de candidatures ou parce qu'il fallait résoudre certains problèmes? Parce qu'il faut, reconnaître qu'il y a une...
Mais ils ont dit dans les propos du rapporteur de la CEI, M. Dieudonné Mirim, où il a dit que il se fait qu'il y a moins de candidats que les sièges à pourvoir au niveau de l'Assemblée nationale.
C'était prévisible.
Bon, mais aussi, il y a aussi une crise à résoudre. Bon, jusque-là, ils allaient clôturer sans l'UDPS, sans l'URCD.
Bon. Et vous pensez que cette période pourra convaincre l'UDPS, le RCD à pouvoir déposer leur candidature?
Bon, on leur offre l'occasion. Mais là, la CEI dira, en tout cas, nous avons prolongé une... ils n'ont pas fait, en fait, Maluma nous aura dira qu'il a tendu la main, Tshisekedi, Rubewa n'ont pas, ils ont craché sur la main. Donc là, Maluma aura un motif, il aura raison de dire. Donc, je vous ai donné 10 jours pour que vous puissiez accorder les violons, mais voici maintenant, rien n'a été fait.
Là, mais qu'est-ce qui explique ce taux moins élevé de candidats par rapport au siège à pouvoir? Il y en a moins, il y en a eu 356, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait des milliers de candidats pour les 500 places, les 500 sièges à l'Assemblée nationale. Oui, Benoît.
En fait, les candidats à la présidence, il y en a même des candidats pour rire, excusez-moi, hein, qui eux ont d'ailleurs 50 000 à jeter par la fenêtre. C'est comme ça que moi je le vois. Candidat à la présidence, il y en a 30.
Oui.
Parmi les 30, il y a plus de 25 qui ont trouvé les 50 000 à jeter par la fenêtre.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
C'est-à-dire qu'il y a parmi ceux-là des candidats pour rire. Des candidats qui n'en sont pas. C'est ce que je veux dire. Par contre, pour les candidats députés, c'est là que ça pose problème. Pourtant, la caution là est née que de 250 $. N'est-ce pas? Elle était de 5 000 $, on l'a rabattue à 250 $, encore une fois, pour...
Vous pensez qu'ils les ont fait à dessein, les députés, pour leur permettre justement de payer facilement?
Eux, sur mesure, de payer facilement. Mais c'était sans compter avec l'immensité de ce pays, avec tous les problèmes de communication que nous avons. Hein, avec, il n'y a que l'avion maintenant pour aller à l'intérieur du pays. C'est impensable. Il y a des pays dans le monde où c'est par route qu'on circule, mais dans ce pays, on ne peut aller à des endroits que par hélicoptère ou par avion. Ce n'est pas normal. Avec toutes les difficultés que les administrations ont à l'intérieur, hier, je suis parti à Kisangani avec, j'avais 5 lois électorales. 5 copies de loi électorale, on me les a arrachées. Il y en a qui n'avaient même pas lu cette loi électorale à le jour de la clôture.
Donc il se pose un problème de
communication,
de vulgarisation de cette loi électorale.
Un problème de transport. Il y en a qui découvraient les critères quand je suis arrivé à Kisangani. Et pourtant Kisangani est relié à Kinshasa. Et il y en a d'autres qui venaient par vélo pour rejoindre Kisangani.
Vous pensez, John Gomba, je rappelle que vous êtes journaliste d'Antena, une chaîne de télévision privée de Kinshasa, vous pensez que la sous-information et la caution assez élevée au niveau de l'intérieur du pays de 250 $, 110 000 francs congolais, peuvent constituer des raisons valables qui justifient ce taux moins élevé des candidatures au niveau des législatives?
Oui, je pense, hein, parce que on a noté dans certains coins le retrait des formulaires. Il y a des formulaires qui ont été retirés des centres, mais qui n'ont pas été retournés. C'est-à-dire que les gens sont venus, mais ils ont sous-pesé leurs moyens, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en mesure de payer cet argent. Bon, d'autres qui n'avaient pas suffisamment, qui n'avaient peut-être pas l'information, comme l'a dit Benoît, ne savaient même pas à quoi s'en tenir. Et je me rappelle qu'on avait proposé à l'abbé Malumalu de pouvoir faire la vulgarisation, de prévoir une période de vulgarisation de la loi électorale. Mais il a semblé dire que ça ne dépendait pas de lui, hélas. Mais voilà, en voulant gagner du temps, voilà comment il va perdre. Ça fera 10 jours de perdu, ouais, sur les calendriers électoraux, alors que si on avait pris le temps de le préparer, tout ceci, on serait arrivé à temps avec tout le monde qui a eu l'information, parce que l'information est quand même fondamentale dans l'engagement dans ces genres de...
Mais c'est $250 à l'intérieur du pays, même ici à Kinshasa, ce n'est pas n'importe qui peut payer ce montant. Est-ce que vous pensez que c'est assez élevé pour beaucoup de nos compatriotes qui voudraient poser leur candidature?
Mais oui, parce qu'il faut avoir 500, mais c'est ce qu'il faudra avoir. Donc au départ, il faudra peut-être avoir plus de 500. Mais est-ce que vous savez, les PIB, c'est que gagne un Congolais par an. Un Congolais vit avec moins d'un dollar par jour. Alors essayez de demander à quelqu'un de trouver $250. Sans compter que au-delà de $250, il y a une pactole à sortir pour la campagne électorale. Alors vous voyez que c'est vraiment la mer à boire pour la plupart d'entre nous. Il n'y a que les gens qui ont été aux affaires ou bien qui ont eu de l'argent de façon tout à fait claire qui peuvent se permettre ces choses-ci. C'est pas donné aux Congolais moyens, effectivement.
Rapidement, Pascal Moulunda, avant de clôturer cette deuxième partie de l'émission.
Merci. J'allais ajouter cette caution.
Vous vivez à l'intérieur du pays. Vous connaissez donc les réalités de l'intérieur du pays. Est-ce que $250, c'est beaucoup pour nos compatriotes de l'intérieur du pays?
C'est beaucoup. Justement, c'était pour exclure. Imaginez-vous, nous devons compter l'argent pour la campagne. Je dois aller à Massissi faire la campagne. Je dois aller à Rutshuru faire la campagne. Mais vous me demandez $250. Et au moment où je dois encore élever une enveloppe pour la campagne, où est-ce que je vais les trouver? Et puis, faudra-t-il qu'on nous dise, cette caution va servir à quoi? Même si Malumalu a dit, Mulongo, il a dit que ils allaient proposer au gouvernement que cette caution soit servie à la presse comme subvention pour permettre aux candidats de faire la campagne aux différents organes de presse. Mais où en est-on aujourd'hui? Cette caution va faire quoi? Voilà, c'est la question qu'on se pose.
Voilà, Joseph Kabila a déposé personnellement sa candidature à la présidentielle hier à Kinshasa au bureau de réception et de traitement de candidature de la CEI. Il ne se présentera pas sous les couleurs du PPRD, suivons-le, lors de la conférence de presse qu'il a tenue devant quelques confrères mercredi dernier. Interview retransmise sur la Radio-Télévision nationale congolaise.
Effectivement, le président Joseph Kabila sera candidat aux élections présidentielles. Le président Kabila sera le candidat de tout le monde, de tout le peuple. J'aimerais bien que ce soit tout à fait clair, le candidat de toute la nation. Suite à la demande de plusieurs partis politiques, de personnalités qui m'ont écrit, la population elle-même.
Voilà, se présentera ou ne se présentera pas finalement Joseph Kabila a déposé sa candidature comme indépendant. Pourquoi, d'après vous, ne s'est-il pas présenté sous les couleurs du PPRD sans parti? John Gomba, d'abord vous.
Le président de la République l'a dit, et il a été sollicité par des personnalités, par d'autres partis politiques et même par des mouvements associatifs de la société civile. Donc, par conséquent, il estimait que se présenter pour le compte du PPRD était un tout petit peu limitatif, et pour avoir une base plus large, il fallait être un indépendant. Mais je sais pas, moi, ça se discute quoi, je pense que ça se discute. Ça aurait coûté quoi au PPRD de former une coalition, parce que c'était même dit déjà après le congrès du PPRD qu'une coalition pouvait être formée pour permettre l'élection du président, donc PPRD et alliés, je crois que c'est comme ça que ça allait s'appeler. Ou on trouverait une autre formulation hein, dans tous les cas. Parce que maintenant, le problème que pose la candidature comme indépendant du président de la République, c'est que entre les lignes, il y a une sorte de camouflet, une sorte de... C'est comme si le président n'a pas tout à fait reconnu les partis en ce moment-ci. Donc le PPRD ne suffisait pas pour porter le président.
Est-ce que vous voulez dire par là que c'est comme si le président de la République prenait une certaine distance vis-à-vis de son parti politique, le PPRD?
Ouais, il a pris de la distance. Il a pris de la distance. Là, moi, je souligne, par exemple, que je n'ai pas vu Vital Kamerhe, secrétaire général du PPRD, au dépôt de la candidature.
Il avait son adjointe, Lukiana.
Oui. Bon, je m'explique pas. Bon, peut-être qu'il avait d'autres motifs. Mais à sa place, on comprendrait. Hein, on est frustré. On devrait être frustré comme le parti qui avait jusque-là porté l'image du président à bout de bras. Eh bien, vous trouvez qu'à la dernière minute, votre candidat dit « Bon, je ne me présente pas en votre nom tout en étant avec vous, mais je me présente pour tout le monde. » Donc, quelque part, c'est un peu sujet à caution aujourd'hui pour le PPRD. C'est une sorte de discrédit, si vous voulez, pour le PPRD qui, dit-on, n'est pas suffisamment fort pour porter l'image du chef de l'État. Ce qui risque de se faire, c'est quoi? Ce qui risque de se faire, c'est qu'aux élections, le président de la République peut passer, mais le PPRD, comme parti, risque de ne même pas avoir la majorité au Parlement pour pouvoir diriger. Ça, c'est, à mon avis, c'est les scénarios que nous risquons d'avoir avec ce qui vient de se passer maintenant.
Pascal Moulunda, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Moniteur à Goma, dans le Nord Kivu. Vous vivez à l'intérieur du pays, mais vous êtes présentement à Kinshasa. Vous connaissez bien les réalités du pays. Vous pensez qu'en se présentant comme candidat du peuple, comme lui-même le dit, c'est-à-dire comme indépendant, le président de la République, du moins à l'est du pays, où vous connaissez, dont vous connaissez les réalités mieux que nous, a plus de chances de l'emporter que qu'en se présentant en tant que candidat du PPRD?
Claude, moi je réfléchis un peu froidement. Je me dis, je me pose, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir, étant du PPRD, ne pouvait-il pas compter aussi sur les alliances? Mais je me dis, comment monsieur le chef de l'État pourra-t-il gérer les éventuels mécontents du PPRD? En tout cas, c'est une crise en vue qui risque de dégénérer. Je me dis, encore une fois, monsieur le président de la République, si nous pouvons faire un tour en arrière, c'est un peu comme à les accords de Sand City. Il ne s'était pas présenté à Sand City. Le congrès du PPRD, il ne s'était pas présenté. Bon, qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, je peux dire tout simplement, est-ce que une fois élu après les élections, ce n'est pas impossible qu'il puisse quitter le PPRD. Donc, si nous pouvons réfléchir un peu, on s'est dit, bon, il y a ici dans notre pays les deux extrêmes. En tout cas, quoi que l'on dise, il y a le PPRD, il y a l'UDPS. Ceux qui peuvent voter pour Rubewa peuvent voter pour Tshisekedi. Par exemple, ceux qui peuvent voter pour Futa peuvent voter pour Joseph Kabila, pas pour le PPRD. Donc, je me dis, est-ce que dans le PPRD, ne pouvait-il pas faire des alliances?
Est-ce que au niveau de l'intérieur du pays, de l'est du pays où vous vivez, Kabila se présentant comme candidat du peuple, comme indépendant, peut lui donner un peu plus de chances de rassembler le voix qu'en se présentant comme candidat du PPRD? Je reviens à ma question.
Ça lui donne beaucoup plus de chances, mais au niveau de l'intérêt de son parti, entre guillemets, ça peut aussi brûler.
Oui, Benoît Cambéré, je reviens à vous et je rappelle que vous êtes journaliste au sein de la revue catholique Renaître. Comment vous interprétez cette présentation de la candidature du chef de l'État en tant qu'indépendant, bien que lui-même ne veut pas prononcer le mot indépendant, mais il se dit être candidat du peuple?
Oui, tout à fait. Deux choses. D'abord, un discrédit, un camouflet pour le PPRD. Le PPRD, on le sait, c'est un parti qui est né comme il est né, parti des cadres. Et d'ailleurs, certains ont parlé d'un panier à crabes avec toutes les personnes qui se sont retrouvées là, tout simplement pour des intérêts et ayant des passés ténébreux. Il y a des gens au PPRD pas très recommandables. Et peut-être c'est une distance que le chef de l'État veut prendre vis-à-vis de cela. Je pense qu'il devrait réfléchir. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, on n'a jamais entendu ça depuis que le PPRD, avec ses nombreux cofondateurs, existe. Il y a des démissions au PPRD. Il y a des gens qui partent du PPRD.
Qui, par exemple?
Faustin Luanga, qui au Maniema n'est pas n'importe qui, excusez-moi.
Ouais, il est parti tout simplement parce qu'il n'a pas été sélectionné dans la liste du PPRD.
Et vous pensez qu'il n'y a que des enfants de cœur au PPRD? C'est justement, il faut gérer tout ça que le chef de l'État
qui n'est pas, comme l'a dit mon confrère Mulunga, du PPRD, il n'est qu'initiateur, comme eux le disent. Il n'a jamais pris sa carte au PPRD. Alors, gérer toutes les ambitions de ce panier à crabe, c'est tout un problème.
Donc vous pensez que cette candidature comme indépendant nuit plus au chef de l'État qu'il ne lui donne des avantages?
Au contraire, ça lui profite. Plutôt que de se présenter avec une équipe qui est divisée. Parce que pour l'instant, il y a des gens qui quittent le PPRD. Vous m'avez demandé de vous citer un exemple. En voilà un. Au Manima, le Faustin Luanga qui est un des... Bon, c'est vrai, il faut gérer toutes ces ambitions. Et tous les gens qui viennent d'arriver, d'ailleurs, d'autres partis, qui se retrouvent au PPRD, sous la liste du PPRD, les fondateurs, les cofondateurs qui ont lutté pour le PPRD depuis le début, se posent des questions.
Mais est-ce que c'est John Gomba, je reviens à vous, mais qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière la tête du chef de l'État? Ben, vous ne parlez pas à sa place, mais en tant que journaliste, mais
oui.
On entendait déjà parler de ça, qu'il allait se présenter comme indépendant, mais y a-t-il d'autres raisons peut-être cachées?
Non, je pense que ce qui motive la démarche actuelle, c'est d'abord de se faire élire président de la République.
Élargir.
C'est tout, ce n'est que cela. D'abord, le chef de l'État veut se succéder. Alors, il se rend compte que le PPRD, c'est un tout petit peu un canard boiteux, il faut l'avouer, pour pouvoir porter toutes ses ambitions. Bon. Et il décide qu'il aura ses canards boiteux avec lui, mais il faut qu'il le voie à côté, s'il n'y a pas un coq ou comme ça, pour que la basse-cour soit remplie.
Est-ce qu'il ne veut pas suivre l'exemple de Toumani Touré, qui s'est présenté aussi sans un parti politique derrière lui?
C'est tout à fait différent. Le chef de l'État...
Il l'aurait fait 10 ans après, peut-être.
Sa famille politique est plus ou moins identifiée. Hein, aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui sort comme ça. Hein. Il a une famille politique plus ou moins identifiée. Mais ce qui s'est passé ici, c'est un calcul des stratégies politiciennes, hein, par rapport à des stratégies électoralistes, par rapport à l'élection. Mais ce que j'ai dit, le problème risque de se poser, parce qu'il faut avouer que dans la configuration actuelle du pays, Joseph Kabila a des chances considérables de se faire élire président de la République. Mais seulement, après cette fait élire président de la République, il faut avoir une majorité avec laquelle gérer le pays.
Mais il a dit qu'il a des partisans derrière lui, quand bien même il a dit lui-même qu'il a sa famille politique, le PPRD, tout ce qui...
Non, mais le PPRD, je peux mettre ma main à couper aujourd'hui que le PPRD n'aura même pas la majorité à l'élection parlementaire, vu ce qui vient de se passer. Parce que pour des gens qui regardent, hein, bon, vous savez que le PPRD, on y vient, surtout pour Joseph Kabila. Quand lui-même ne reconnaît même pas ses PPRD, nous devons dire, écoutez, ça ne vaut même pas la peine. Donc les PPRD, déjà, avec ses chances relatives qu'il avait, va les avoir encore amoindries. Donc il faut compter que les PPRD n'aura même pas la majorité parlementaire. Il faudra composer. Et dans cette composition, on ne sait pas ce qui va sortir du panier. Parce qu'il faudra remuer et prendre à gauche et à droite.
Votre dernier mot peut-être, c'est que ça donne, cette candidature du chef de l'État en tant qu'indépendant lui donne beaucoup plus de manœuvres pour tisser des alliances avec certains partis politiques.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc le chef de l'État voudrait élargir sa base et c'est qu'il l'a déjà fait. Et il ne veut pas faire les moutons de Panurge avec... des gens dont les images sont vraiment ternies. Il est propre, même correct, il veut dire non, faisons alliance avec des gens corrects.
Oui, le dernier mot à Benoît Kambéré, vous pensez que ça lui évite d'être dans le même panier que des gens qui n'ont pas une très bonne image?
D'être emballé de casseroles. Tout simplement.
C'est-à-dire?
Parce que c'est vrai.
Rapidement, nous sommes à la fin.
Si tu prends des gens qui ont des passés ténébreux, qui ont des réputations qui ne sont pas à recommander.
Mais il y en a dans tous les partis politiques.
Mais bien sûr. Hein, mais il vaut mieux avoir les gens plus ou moins sains dans tous les partis politiques.
Et lui-même, est-ce qu'il est sain, le président de la République?
Ça, je n'oserais pas le dire.
Voilà, c'est ça le dernier mot de cette émission. La fin de la visite du secrétaire général des Nations Unies en RDC, la prolongation de la période d'enregistrement de candidature à la présidentielle et aux législatives, et le dépôt de candidature de Joseph Kabila à la présidentielle, trois thèmes que nous avons abordés lors de la tribune de la presse de ce vendredi. Trois confrères étaient avec nous dans cette revue de l'actualité de la semaine. John Gomboa d'Antena, une chaîne de télévision privée de Kinshasa. Benoît Cambéré, journaliste au sein de la revue catholique Renaître à Kinshasa également. Et Pascal Moulunda, éditeur du journal Le Moniteur, qui était avec nous ici dans ce studio à Kinshasa. Merci à tous. Bon week-end et à lundi pour une autre émission Dialogue entre Congolais. Thank you.